Bonjour et bienvenue sur Gameblog.fr pour votre rendez-vous avec les podcasts de la rédaction. Et puis alors aujourd'hui, hein, franchement, une saga Mario, on vous l'avait déjà annoncé la semaine dernière, qui va vraiment faire plaisir puisqu'il y a énormément de choses à dire, vous allez le voir. Et pour ça, eh bien, je suis entouré de Julo. Comment vas-tu, Julo?
Ça va très bien, mais je trouve que ton pull, il est pas très funky ce soir.
Non, mais parce qu'il me tient chaud, parce que je suis un peu malade. Angel est avec nous aussi.
Mamma mia.
It's a me, Angel. Et Caf aussi, notre ingé son
perturbé aujourd'hui, ça marche moyennement. Voilà. J'espère que le son sera correct, messieurs.
J'espère bien. Bon, alors nous allons donc parler du plombier moustachu le plus célèbre du monde, hein, un plombier qui a désormais 26 ans, puisqu'il est né en 1981. On va dire c'est la figure emblématique du jeu vidéo, tout simplement. C'est plus de 190 millions de jeux vendus à travers le monde, je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est des apparitions dans plus de 150 jeux. C'est absolument colossal. C'est la mascotte ultime. C'est le personnage que tout le monde, gamer et non-gamer, reconnaît et peut nommer. C'est assez incroyable. Et c'est un personnage qui a eu une histoire, vous allez voir, assez mouvementée, avec pas mal d'anecdotes. Donc, si on commençait directement, Julo, 1981, par sa première apparition. Et là, à l'époque, on ne parlait pas encore de Mario, puisqu'il s'agit de la borne d'arcade Donkey Kong, avec une histoire assez étonnante.
Et il s'appelle Jumpman, d'ailleurs.
Jumpman, voilà. Tout à fait.
C'est son premier nom à notre ami Mario. Ouais. Alors, l'histoire hallucinante, c'est quoi? C'est la naissance de... Mais tu veux vraiment que je la raconte encore?
Exactement.
Parce que la dernière fois, c'était une catastrophe. Donc,
il y avait
ce jeu qui s'appelait Silent Scope, c'est ça?
Radar Scope,
pardon.
Et ben ça commence bien. Voilà. Alors on va la refaire. Alors ça s'appelait comment?
Ça s'appelait Radar Scope, bien sûr. Et voilà. C'était un jeu d'arcade qui allait être un peu le cheval de Troie de Nintendo sur le marché américain. Mm-hmm. Donc ils en ont produit des tas. Et il se trouve que le truc a fait un flop.
Mais alors flop monumental.
Monumental. Et alors je sais plus, c'était quelques... je sais plus exactement, tu avais le chiffre tout à l'heure, mais tu l'as peut-être...
Il y avait plus de 300 000 bornes qui avaient été éditées, et puis ils n'arrivaient même pas à en vendre, même pas 100 000, quoi. Donc
voilà,
un tiers, même pas.
Ah oui, d'accord.
Donc la problématique qui s'est posée, ça a été, voilà, il faut exploiter un peu ce truc pour essayer de ressortir la tête de l'eau, voilà, de relancer un peu la machine. Et donc, ils ont eu l'idée de développer un jeu qui allait aller sur ces bornes d'arcade, voilà, pour un peu redynamiser le truc. Et ça a été donc Donkey Kong. On a demandé à Miyamoto, c'est là qu'il a été propulsé d'ailleurs.
Alors justement, plus précisément, il y a une petite équipe, une Dream Team de 4 personnes, à l'époque ça suffisait à faire un jeu, hein, qui s'est formée autour de Gunpei Yokoi, donc, voilà. Le créateur des Game & Watch, plus tard de la Game Boy, et puis de plein de titres
phares. Et du Virtual Boy.
Et du Virtual Boy. C'est horrible à chaque fois de
lui
ressortir ça,
dire, mais...
parce que c'est un peu son erreur, hein, mais enfin tout le reste a été quand même plutôt classe. Et donc Gunpei Yokoi avait à l'époque quelqu'un en qui il avait vraiment foi, c'était effectivement Shigeru Miyamoto, qui à l'époque n'avait encore produit aucun jeu pour Nintendo et pour quiconque. Hein. Et donc on leur a dit à ces 4 personnes, donc faites-nous un jeu. À l'époque, le jeu devait être un jeu à la licence Popeye. Popeye cartonnait aux États-Unis à cette époque. Popeye, on se rappelle, hein, avec
les épinards,
Olive,
tout ça.
Etc. Voilà. Sauf que la MGM, qui avait les droits, a refusé de les vendre à Nintendo. Et donc Nintendo, fort mari de cet échec, s'est dit bon, bah, il faut vite qu'on trouve quelqu'un. À l'époque, King Kong était dans toutes les têtes. Ils se sont dit bon, on va prendre un personnage à la King Kong. Donc c'est devenu Donkey Kong, cette espèce de gros orang-outan là, de gorille gigantesque. Et ils l'ont mis avec le même trio amoureux, on va dire Jumpman, donc petit personnage bondissant, c'est pour ça qu'il s'appelle Jumpman, qui devait sauver Pauline. Pauline, qui était donc pris par Donkey. À l'époque, Jumpman d'ailleurs était charpentier et non pas plombier, comme ça le sera plus tard. Bon, c'est un véritable carton. À l'époque, la borne d'arcade, c'était l'une des spécificités d'ailleurs de Radar Scope, ne pouvait afficher, et c'était un record, hein, que 5 sprites en simultané.
Attention.
Ça ne rigole pas.
C'était un bon technologique.
Ah, mais c'était un bon technologique extraordinaire. Et donc, c'est là où Shigeru Miyamoto s'est attelé à la chose. D'ailleurs, c'est ce moment-là où en fait Mario est né, donc, avec pas mal de restrictions techniques. Est-ce que vous savez un petit peu comment est né, on va dire, le design général de ce personnage?
Moi, je sais, mais parce que t'en as déjà parlé.
Alors, est-ce que tu te rappelles bien?
Je crois qu'il y a de l'économie de pixels dans l'air.
Il y a un truc déjà, la casquette, c'est bien parce que comme ça, t'as pas les cheveux à faire.
Tout à fait.
La moustache, ça t'évitait de faire tout le bas du visage.
C'était pour éviter d'avoir une bouche.
Et, voilà. Ça, et ça permettait de le différencier très rapidement par rapport aux autres personnages.
Exactement. Tout à fait. Et il y avait un autre truc, je sais plus ce que c'était.
C'est la salopette.
La salopette, ouais.
Ouais, la salopette. Alors, salopette qui a une histoire assez incroyable parce que vous le savez tous, hein, Mario a donc deux couleurs, salopette bleue et petit haut rouge. On va dire. Voilà. Sauf que ça n'a été fixé qu'en 88. Là, pourtant, on se trouve en 81. À l'époque, en fait, en 81, justement, dans la version Donkey Kong, c'était l'inverse. La salopette était rouge et le haut était bleu. Et puis ensuite, dans l'épisode Super Mario Bros., la salopette était marron. Et c'est qu'en 88 que Mario vraiment s'est affiné.
Il a arrêté de changer de fringue.
Oh là, ouais.
Voilà.
Ça vient de changer ma vie, là.
Que d'anecdotes. Voilà. Donc ça, en gros, c'était un petit peu sur l'épisode Donkey Kong. Il faudra donc attendre 1983 pour voir apparaître pour la première fois Mario.
Mais j'ai une super question.
Le vrai nom Mario.
Je peux revenir sur la salopette, deux secondes. Ouais. Une salopette, c'est pas de couleur unie, normalement? Elle est pas toute rouge, la salopette?
Alors...
Ah, je crois que tu vas me calmer direct.
Certes, oui, mais c'est le petit truc que tu portes au-dessous, parce qu'une salopette, ça monte à peu près jusque-là, ouais, puis d'accord. Après, il y a les bretelles.
Exact.
Mais généralement, tu n'es pas nu sous ta salopette.
Mais sinon, je crois que la salopette,
ça dépend.
Sauf si tu es une... Oui, j'ai des photos comme ça, mais je ne peux pas tout vous raconter. Non, avec des femmes. Laisser des femmes en salopette, c'est rigolo.
Ah oui, c'est très sexy.
Ouais, très sexy.
Putain, comment
t'as... On va revenir à Mario, mes amis. Donc, en 83, c'est la création d'un nouveau jeu. On n'est toujours pas vraiment, on va dire, sur du jeu de plateforme, mais c'est l'apparition, donc la première fois, de Mario. Et si on doit le nom Mario, en fait, c'est un hommage à... Vous le savez ?
Pas du tout.
Non. Alors là, pour le coup, non.
Alors, en fait, c'est un hommage au propriétaire des locaux de Nintendo of America, qui s'appelait Mario Segali. Et donc, les équipes de Nintendo...
Segali
ont... Ouais, voilà.
Pas mal.
Et pas Segala.
Non, mais Sega, il y a Sega.
Exactement.
Sega avant le lit.
Exactement. Et donc, les équipes de Nintendo se sont dit, bon, apparemment, le personnage était très sympathique. Et ils lui ont dit, bon, le héros de notre prochain jeu, finalement, il ne s'appellera plus Jumpman, mais il s'appellera Mario. Et c'est à cette époque, donc en 83, dans le jeu Mario Bros. Rappelez-vous un peu, hein, c'est le jeu où il y avait on était dans les égouts de Brooklyn, apparemment.
C'est un niveau unique.
Niveau unique, voilà, avec des espèces de personnages à carapace, des tortues qu'on devait taper. On avait ce qui s'appelait les pots pour renverser, qu'on sautait dessus, ça renversait les personnages. Un jeu très basique, très arcade, très simple, mais qui a néanmoins fait le succès de Mario. Et c'est la première fois justement où Mario devient plombier. Et c'est pour ça qu'on a l'apparition des tuyaux.
C'est voilà. Le que tu cherchais.
Exactement. J'ai un problème avec la tuyauterie, en fait.
Ah,
tout le monde. Trop de blagues. Tu ne devrais pas nous balancer des cardaneux comme ça. Tu prends des risques inconsidérés.
Et c'est la première fois aussi on voit l'apparition de Luigi. Alors, question. Comment s'appelle Luigi, son nom.
Moi je sais aussi, mais on en a déjà parlé mille fois. Okay. Je m'aidais vous pour la raconter.
Je devais pas être là, j'ai dû sécher ce
Alors Angel
là. Ok, il s'appelle Mario, et parce que Mario c'est aussi son nom de famille. C'est-à-dire il s'appelle Mario et Luigi Mario.
Ce sont donc les frères Mario.
Et donc Julo me confirmera, on l'apprend apparemment dans ce navet qu'est le film.
Oui, voilà, que j'ai jamais vu. À mes souvenirs, en tout cas, c'est à ce moment-là que ça a été défini. Mais voilà, c'était un dialogue du début du film qui disait quel est votre nom, Luigi comment, Luigi Mario, et vous Mario, Mario comment, Mario. Et voilà, enfin bref, il y avait tout un embrouille là-dessus.
C'était ça, voilà, tu viens de résumer le film.
Enfin, je vous rassure. Voilà, après, il faut pas regarder la suite parce que c'est voilà.
Je vous rassure, dans la genèse, dans l'histoire de Nintendo, c'était avant cette espèce d'étron qui était ce film, assez incroyable, mais mauvais. Mais effectivement, Luigi Mario et Mario. Et à l'époque, justement, Luigi a exactement la même tête que Mario. Il lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Il y a juste sa salopette qui n'est pas de la même couleur.
Il est colo.
Il est vert et bleu.
On va dire. Mais il a exactement les mêmes spécificités, la même tête, etc. Et vous verrez, ça a une importance un petit peu plus tard, lors de sa deuxième intervention, sa deuxième apparition, on va dire, publique, qui aura lieu en 87, mais on en parlera un petit peu plus tard. On avance un petit peu ?
Allons-y.
Non. Allons-y, s'il te plaît.
1985. Alors là, 1985, c'est une étape... Une date charnière dans l'histoire du jeu vidéo.
La
puisque...
Liga sort. Pardon.
Ouais, c'est surtout l'apparition de Super Mario Bros. Donc le premier vrai jeu de plateforme Nintendo avec Mario. Et là, l'univers change radicalement. Hein. On sort des égouts et on arrive désormais au royaume champignon.
oh non, j'en peux plus. C'est histoire comme ça.
Bon, enfin, c'est vraiment là où toute la genèse de Mario se crée, puisque c'est la création donc du Mushroom Kingdom, c'est l'apparition de Bowser, c'est l'apparition de Peach,
c'est l'apparition de la coke dans les bureaux de Nintendo.
Voilà, voilà, c'est
ou des champignons magiques.
Et c'est l'apparition des champignons, justement.
Bah oui, bah oui.
L'apparition des champignons qui permet à Mario de grandir. Est-ce que vous vous rappelez un petit peu
et de la cupidité avec les pièces?
Exactement. Oh bah la cupidité, oui, puisque cet épisode-là, Super Mario Bros, sorti en 85 sur NES, c'est quand même encore le Mario qui s'est le plus vendu de tous les temps. Hein. Plus de 40 millions d'exemplaires. Ah, encore aujourd'hui, c'est le Mario le plus vendu de tous
respect
les temps.
Respect total.
Bah, c'est l'épisode qui a fait la légende un peu. Quand ouais, même. Ouais. C'est l'épisode qu'on a tous dans toutes nos têtes. C'est ce qui, enfin voilà.
Alors justement, est-ce que vous en rappelez un petit peu, Julo?
Ah complètement, ouais. Ouais, carrément. C'était grandiose. Et comme je disais dans un autre podcast, j'y ai rejoué il y a pas longtemps. Et c'était bon, évidemment des très grands souvenirs qui me revenaient en pleine tronche, mais c'était surtout une époque où la difficulté avait rien à voir
d'un autre temps,
avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Ouais,
c'était super dur.
Et pourtant, on enchaînait, on faisait et on refaisait les mêmes niveaux tout le temps, qu'on connaissait finalement par cœur, on progressait. Tout, c'était une grande époque.
Et je vais m'inscrire en faux. Je n'y ai jamais joué.
Tu n'as jamais joué à ce jeu?
Et non, parce que j'avais pas de console à l'époque déjà.
T'as une Wii?
Maintenant.
Il va falloir les télécharger sur la Wii.
Et j'ai ça, mais il a l'air tellement dur que même, tu sais, je prends les jeux de plateforme pour voir.
Mais toutes les musiques sont. Non, ouais. Dire, les gens connaissent toutes les
musiques. Non, mais ce que c'est marrant, ce qui est drôle, c'est que moi j'étais sur micro à l'époque, donc je déconnais à moitié quand je parlais de l'Amiga en 1985, etc. Mais dès 86, en fait, sur micro, on a eu des clones de Mario. Et des jeux qui sortaient. Alors, on a eu Great Gianna Sisters, qui avait un nom italien aussi un peu. Donc c'était des filles, c'était pas du tout une copie, hein. On passait dans des tuyaux, on ramassait des pièces, rien à voir. Et nous on jouait à ça parce que bon, on savait que c'était moins bien et franchement c'était pas terrible en fait, mais on avait plein de gens sur micro en fait avaient pas de Mario, il y avait une espèce de frustration, ce qui fait que les gens jouaient avec ces espèces de clones, parce que Mario au-delà de la licence a créé toute cette série, enfin a renforcé vraiment tout l'univers du jeu de plateforme, il y a énormément de jeux qui sont
posé tout simplement les bases d'un gameplay quoi.
Exactement.
Les sauts millimétrés, les plateformes mouvantes.
Mais Great Gianna Sisters en plus on y jouait en pirate parce que le jeu évidemment a été interdit par Nintendo et donc il pouvait pas être diffusé, il a été interdit de magasin, etc. Bref. Donc voilà.
Alors justement pour rebondir, je sais pas si c'est Julo ou toi Kef à l'instant qui parliez de musique dans
c'était moi.
C'était toi Julo. Juste reviens très rapidement en arrière puisque bien sûr le compositeur officiel des musiques de Mario de tous les temps, hein, c'est Koji Kondo qui fait aussi les musiques des Zelda, enfin il fait énormément de musique chez Nintendo, des musiques qui marquent hein, puisque le thème de Mario il est repris encore aujourd'hui dans Mario Galaxy et compagnie, c'est vraiment des musiques qui ont marqué. Mais il faut savoir quand même pour l'anecdote que dans Donkey Kong, donc en 81, je retourne un petit peu en arrière, et ben c'est Miyamoto qui faisait la musique du jeu.
Il a tout fait.
Il a tout fait. Il a fait le game design, il a fait les personnages et il faisait aussi la musique.
Mais alors... c'était pas le non c'était ça c'est
ça je pense que non c'est non, dans Super Mario
ça,
Bros.
C'est dans
ça.
Super Mario
voilà.
Bros.
Dans Donkey Kong, là je n'ai pas de souvenir de cette musique. Ouais, ça c'est Koji Kondo, vraiment en quelques notes il a réussi à donner.
Faut
un thème.
Faut sortir les mèmes, les émulateurs d'arcade et retrouver la ROM. Je suis. Non mais vérifié.
La chanson que tu viens de enfin le thème que tu viens de chantonner, il est tout aussi connu que le thème de Star Wars. Non,
c'est
et
complètement
dans la mer,
aussi universel. Quoi.
Tous les jingles, ça, ouais. Je pense que tous les jingles de Mario sont hyper connus en fait. Le truc quand tu gagnes, tout est hallucinamment connu. Ça va chier.
Non mais carrément. Preuve à quel point ce jeu a vraiment changé la face du jeu vidéo, tout simplement, en le faisant sortir. À l'époque d'ailleurs, il y avait énormément de shoot avec des vaisseaux, etc. Et d'ailleurs, je disais, petite anecdote, qu'il y avait beaucoup de développeurs d'ailleurs qui avec des réticences à faire des héros humains, ouais. Parce que c'était encore un peu dur à animer ou quoi que ce soit, ils préféraient avoir des vaisseaux qui sont
c'était
un peu
plus simple, ouais.
Qui se déplacent droite, gauche, haut, bas et qui tirent des petits pixels. Hein.
Bah déjà, faire courir des gens, mais tout, même si à l'époque on faisait deux sprites qui alternaient, c'était déjà vachement plus compliqué qu'un vaisseau qui faisait rien en fait. Hein. Il y avait juste son réacteur qui changeait et puis c'est tout. Hein.
Exactement. D'ailleurs, grosse inquiétude de la part de Miyamoto lors du lancement de Super Mario Bros. Ils avaient passé pas mal de temps à développer dessus et lui était assez inquiet, il trouvait que le jeu n'était pas au top et qu'il y aurait eu encore beaucoup de choses à peaufiner. Bon, bah voilà, c'est les grands angoissés, c'est aussi les grands génies.
Voilà, c'est ça.
Écoute, Shigeru, sors-nous des jeux comme ça tout le temps et puis ce sera très bien. Les années avancent, et puis pas beaucoup d'ailleurs, puisque très rapidement, il y a un deuxième épisode qui sort, donc Super Mario Bros. 2, sur Famicom Disk System, un an après.
Donc ça, c'est au Japon, attention.
Là, effectivement, nous ne sommes qu'au Japon. Et ce jeu, en fait, n'a pas vu le jour. en Occident.
En tout cas, pas tout de suite.
Pas tout de suite,
quelques dizaines d'années.
Voilà, plus tard. Bien plus tard, il aura fallu attendre la Super Nintendo avec Super Mario All-Stars, voilà. Qui était une grande compile de tous les Mario parus sur NES. Pour le découvrir sous une appellation qui s'appelait The Lost Levels.
The Lost Levels.
Voilà. Et donc, ce Super Mario Bros. 2 japonais avait en fait reprenait strictement la trame visuelle.
Bah,
on va dire.
Franchement, c'est juste le même.
Le même.
Avec en fait plus de warp zone. Mm-hmm. En fait, tu avais différents trucs dans le gameplay qui te permettaient de revenir en arrière, d'aller directement au dernier niveau si tu prenais le bon chemin, etc. Enfin, tu pouvais le finir en 5 minutes ou alors le faire durer vachement plus longtemps. Enfin, c'était.
Mais avec une difficulté vraiment accrue, apparemment.
Ouais. La difficulté était encore plus élevée, quoi, pour essayer de tout récupérer et tout. Enfin, c'était plus Mario 1.5 que Mario 2. Il s'appelait Super Mario Bros. 2. Mais voilà, quoi, c'était un peu une extension sur le Famicom Disk System.
Exactement. Et c'est là où ça devient vraiment intéressant, parce que nous, si vous vous rappelez, nous, Français, Européens, Occidentaux, Américains, eh ben nous, notre Super Mario Bros. 2, il ne ressemble pas du tout à ça. Nous, notre Super Mario Bros. 2, celui qu'on a connu, il nous permettait de jouer avec Mario, Luigi, Peach, Toad, en alternance, et c'est un Mario, justement, pas vraiment comme les autres. Eh ben il faut savoir, en fait, qu'il y a une histoire derrière ce jeu. En fait, en 87, au Japon, sort Yume Kojo Doki Doki Panic, un jeu en fait sur lequel Miyamoto a passé énormément de temps, beaucoup plus de temps finalement que sur le Super Mario Bros 2 qui était sorti au Japon. Et en fait, Nintendo a trouvé que le jeu était beaucoup trop compliqué, le Super Mario Bros 2 japonais, pour le sortir aux États-Unis. Du coup, ils se sont dit, et si on sortait Yume Kojo Doki Doki Panic en rechangeant les personnages, en mettant
on change les sprites,
on change les sprites, etc. Voilà. Et puis on en fait un jeu, on le rechange rapidement, et puis on le sort sous l'appellation de Mario. C'est donc ce qui est fait, et c'est là la première fois où du coup on voit Luigi en vrai, avec de réelles différences, donc un peu plus grand, plus maigre que Mario aussi.
Avec des sauts différents.
Qui sont, voilà, exactement. Parce qu'en fait, et ça c'est assez amusant, Luigi reprenait le personnage de maman. Dans Doki Doki Panic, puisqu'en fait il y avait maman, papa, fils et fille. C'était une histoire un peu de famille, mais un peu arabisante. Il y avait un fakir, il y avait une princesse.
Ils ont fait ça.
Enfin, ouais, c'était assez space, ce jeu qui n'est jamais sorti chez nous en Europe sous son vrai nom. D'ailleurs, c'est un jeu dans lequel il y a pas Bowser. Dans lequel il y a énormément de choses très différentes. Ouais, Julo.
Mais cela dit, on voit apparaître donc dans ce Doki Doki machin qui devient Super Mario Bros 2 aux États-Unis, par exemple les Shy Guys. Donc les Shy Guys qui sont ensuite du coup repris dans
les
niveaux.
Les Shy Guys, c'est quel personnage ?
C'est ces petits monstres avec un museau, masque, avec un masque blanc, avec de petits trous pour les yeux, voilà, sur la tronche. Et donc ils étaient dans le jeu de base, donc dans Doki Doki truc. Et après ils ont été donc repris dans l'univers de Mario de manière générale après pour les épisodes qu'on suivit, etc.
Carrément. Mais donc ça c'était assez intéressant à noter, et c'est pour ça aussi d'ailleurs que à la fin du jeu, lorsqu'on le finit, on se rend compte qu'en fait ce n'était qu'un rêve de Mario, ce qui leur permettait aussi,
c'est les champignons, ça.
Voilà, c'est une fois de plus, de montrer que le jeu était très différent, certes, mais c'est parce qu'il y avait une raison particulière. Enfin, c'est un jeu qui a quand même vraiment cartonné.
À noter d'ailleurs qu'il est finalement après sorti sous cette forme-là au Japon, sous le nom de Super Mario USA, je crois.
Voilà, exactement. Comme quoi, rien ne se perd chez Nintendo, tout se transforme. Voilà. En 98, un an après, c'est la sortie d'un chef-d'œuvre, d'un véritable chef-d'œuvre. C'est Super Mario Bros. 3.
Ah ouais, extraordinaire.
Alors là, tout change d'une fois de plus. C'est l'apparition d'une carte.
Voilà,
et c'est la première fois quelque part où ça devient plus qu'un... Enfin, un jeu de plateforme, bien évidemment, aussi un jeu d'exploration.
On explore un peu la carte comme ça, sous le modèle après qui a été réutilisé dans la version Super Nintendo. Donc tu déplaces Mario d'un univers à un autre comme ça, et puis après tu as des raccourcis, des trucs, des tas de subtilités. Et puis c'était aussi l'apparition des nouveaux costumes pour Mario. Ouais. Voilà, donc on se souvient que
le raton laveur,
c'était sur la jaquette, le Mario raton laveur qui peut planer, etc. Enfin, il y avait plein de nouveautés, il était blindé
de tas de notes de musique.
Ouais, les cases de musique aussi qui apparaissent dans cet épisode-là. Il était juste, ce jeu était surblindé, il était long, il était passionnant et plein d'inventivité, quoi. Enfin, il était vraiment génial, un grand souvenir en tout cas.
C'est sûr. Puis alors, techniquement, en plus, là, il montrait une progression technique entre le premier Super Mario sur NES et ce dernier épisode.
Alors, il faut voir les screens. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit juste des vieux jeux, etc. Mais à l'époque, c'est vrai que techniquement, c'était. Enfin, il était vachement plus impressionnant. Quoi.
Ouais, carrément, il était riche.
Il y avait 6 sprites au lieu de 5, je pense.
Quelle mauvaise langue, Angel. Non, il était vachement bien. C'était vraiment... On pouvait passer derrière le décor aussi.
Ouais,
il y a certains moments, on passait derrière le décor. On passait à chaque fin de niveau. Il y avait une zone qui était découpée en noir et blanc. Il fallait choper une étoile ou pas. Une sorte de... C'était génial. Tout simplement, un très, très grand jeu.
Mais c'est l'apparition des étoiles aussi, d'ailleurs. Dans le 3.
Je suis en train de me demander justement s'il n'y en avait pas eu avant.
Je vous aiderai pas. Hein, parce que
Mais effectivement, c'est bien possible.
Non, je crois bien que c'est l'apparition des étoiles dans le 3.
Réfléchissez bien parce que franchement, c'est primordial. Je ne sais pas si j'arriverai à dormir.
Pour les fans de Mario, en tout cas, oui. Oh, ça l'est.
C'est eux qui seront pourris dans le forum, c'est pas nous. Hein.
On n'est pas aidés. Hein. Bon, on va mettre tout le monde d'accord avec le démarrage de la Super Nintendo, lancement en 91. De la Super Nintendo avec Super Mario World. D'ailleurs, c'est à noter, hein, c'est encore une époque où à chaque lancement de console Nintendo, et on le verra un petit peu plus tard avec le lancement de la Nintendo 64, Mario était toujours présent, ambassadeur, qui était lui qui devait lancer les ventes de la machine sur Mario World. Au secours, quoi.
Au secours, tellement c'était juste fantastique.
C'est mythique. Ouais. C'est l'apparition de Yoshi, par exemple.
Oui.
Bon, ok, j'avoue, même moi, je l'ai trouvé surpuissant.
Ah, voilà, André.
Ok, je craque.
Attends, mais André, c'est parce qu'on s'était dit tout à l'heure.
Non, mais bon, je suis obligé d'avouer, il y avait Yoshi. Enfin, ouais, bon. Voilà, super souvenir.
Ah, mais
super
ça, c'est
souvenir.
Yoshi.
J'ai perdu beaucoup d'heures dessus.
La cape.
Voler. La cape, voilà. Cette fois-ci, on volait carrément super longtemps.
Il fallait un triple saut, rappelez-vous. Un premier saut, deuxième saut pour prendre en courant. Puis...
Et puis après, tu planais, c'est-à-dire que tu pouvais redescendre et remonter.
Oui, c'est ça.
Etc.
Il fallait mettre très bas, puis hop, on remontait en haut. Et
tu avais des
plus
secrets à découvrir partout. Etc. Mais c'était vraiment partie des bases donc, de Super Mario Bros. 3. Tout était. En plus, il y avait un changement de génération de console, donc c'était super beau et tout. Et voilà, quoi, c'était le jeu de plateforme ultime. Quoi.
Effectivement, on retrouvait ce principe de carte évolutive, où on avançait dans les mondes. Il y avait les zones avec les points d'interrogation jaunes, bleus, etc., qui permettaient de remplir
des cases
dans plusieurs mondes après,
voilà,
ou
après,
avant, il fallait retourner en arrière.
Voilà, tu retournes en arrière, tu peux accéder à de nouvelles zones, etc. Et puis, comme tu disais, il y a Yoshi, surtout.
Ouais, l'apparition de Yoshi,
ça
c'était fantastique. Justement, Shigeru Miyamoto, à l'époque, avait déclaré que le jeu avait été un peu rushé, qu'il n'avait pas pu intégrer, mettre tout ce qu'il avait eu envie dans ce jeu, et il avait un peu peur.
Et franchement, on ne l'a pas vu.
Non, mais voilà, c'est ça. Hein, c'est, voilà. Qu'est-ce que ça aurait pu être si ça avait été le cas?
Il était déjà super long. Hein. En tout cas, de mes souvenirs, il était super long.
Rappelez-vous, il fallait finir avec 96 étoiles, et puis il y avait une petite étoile sur le menu de début, comme ça vous aviez vraiment tout fini. Et juste aussi, c'était le début d'une autre mascotte concurrente, c'était Sonic. Ouais. Qui en même temps, c'était la lutte entre les deux. Et juste pour vous donner un petit ordre d'idée, ce Super Mario World s'est vendu deux fois plus que Sonic 1 et Sonic 2 cumulés.
Alors on sait que Sonic, c'était un carton, notamment aux
États-Unis.
C'est la mascotte propulsée de Sega. C'est un succès gigantesque.
C'était la bataille.
En même temps, Mario était déjà ultra connu, alors que Sonic débarquait un peu dans le milieu...
On reconnaît tout à fait Angèle. Je dois préciser que Angèle est un fan absolu de Sonic.
Non, mais c'est pas ça. Non, mais
c'est vrai, t'as raison.
Mais voilà quoi. C'était l'outsider de toute façon Sonic quoi qui se passe. Mario, il y avait déjà, comme on a dit, qu'on les a déjà listés. Il y a eu Super Mario 1, 2, 3 avec les Jumpman et compagnie. Donc bon. Ça va quoi. La musique, on la connaissait déjà quoi.
mais justement, c'est là la force de Mario, c'est dans chaque épisode de vraiment renouveler quelque part un peu son concept, de toujours apporter des petites nouveautés de créativité pure qui font que aucun Mario n'est similaire.
Ah oui, cela dit, voilà, je suis le premier à le dire que par exemple Sonic a jamais su vraiment se renouveler.
Ouais.
Finalement, les Sonic, tu regardes de l'un à l'autre, c'est grosso modo la même chose, alors que Mario, finalement, ça a quand même vachement changé tout au long des années et des versions.
Quand Sonic a changé, en plus généralement c'était pas super ambiant tout le temps.
Quand tu vois le changement de Mario en 3D,
d'ailleurs,
avec Sonic,
Mario, c'est la force de la série, c'est qu'il s'est jamais vraiment planté quoi. Il n'y a jamais eu d'épisode où, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça et tout. C'est hallucinant.
Même le virage 3D, qui pourtant est vachement dur quand même, parce que.
Ah, mais là, ils ont sublimé
la 3D. On va y venir. Ils ont créé.
On n'y est pas encore, donc on va y revenir dans quelques instants. Hein, mais effectivement, c'est plus que sublimé. Quoi. Juste pour dire aussi que n'oublions pas hein, la version Game Boy. De
Super
Mario.
Mario Land.
Ah bah Super Mario Land, juste
extraordinaire,
hallucinante quoi, fantastique, super riche, long, beau pour l'époque aussi.
Ouais, et puis c'était incroyable de jouer à un jeu aussi long, complet,
Sur une
et
console
sympa,
portable.
Sur une console portable, c'était
carrément.
C'était génial, c'était juste génial. Et puis il y a eu le 2, je sais plus s'il y a eu un 3, je me rappelle.
Ouais, puis il y a eu l'apparition de Wario aussi, mais enfin bon, ça c'est
ouais,
encore un petit peu autre chose.
Mais c'était grand sur Game Boy.
Mais n'oublions pas effectivement Super Mario Land qui était juste fantastique quoi. Quelques années plus tard et là c'est la première fois où finalement il faudra attendre plus de 4 ans alors que d'habitude les Mario se suivaient à rythme très régulier et ben là il faudra attendre 1995 pour voir on va dire une suite de Super Mario World puisque ça s'appelle Super Mario World 2 Yoshi's Island mais justement c'est la première fois où ben, en fait on n'incarne pas Mario puisqu'on est avec Mario en mode petit, hein, jamais on ne l'incarne. Ouais. Et là, c'est la part belle à Yoshi.
C'est un spin-off, quoi. Voilà.
Ouais, c'est une sorte de spin-off. Ouais. Mm. Qu'est-ce que vous pensez de ce jeu ? Parce que justement, quelque part, Miyamoto disait plus tard que c'est un peu ce qu'il aurait voulu faire d'entrée de jeu dès le début, au niveau, par exemple, technique. Ça veut dire, et quelque part, je serais tenté de dire, est-ce que ce n'est pas le début un peu du cel-shading ?
Exactement. Alors ça, oui, ça, c'est vrai. Je m'en rappelle très bien. C'est vrai que visuellement c'était vraiment vraiment novateur quoi.
Ouais.
C'était
crayonné,
textures, j'allais dire. Voilà, c'était crayonné quoi. Mmh.
C'était méga classe même.
Et voilà, ouais.
Moi j'ai rejoué, j'avais arrêté Mario très honnêtement, je m'y suis remis parce que je trouvais ça trop beau quoi. J'étais là genre OK, je vais essayer.
Alors en plus des trouvailles techniques surréalistes hein, c'est la première fois où il y avait des c'est utiliser le mode 7, les zooms à gogo avec des monstres énormes qui se gonflaient, se diluaient. Enfin, c'était juste fantastique.
Mais je pense qu'ils ont retourné la console. Ils ont retourné la console pour faire ça. Parce que visuellement, on avait quoi ? Il y avait pas d'équivalent à l'époque. Hein.
Non,
c'était vraiment novateur. Visuellement, c'était...
Je vous arrête deux secondes. Il y a Raon qui est arrivé. Raon, allons-y.
C'est toi donc, viens parler de Mario avec nous.
Allez, parler de Mario avec nous.
Non, oh là là.
Alors tout ça pour dire aussi, justement là on dit est-ce que Nintendo a retourné la console ? Bah visiblement pour Miyamoto pas tant que ça, puisqu'en fait pendant 5 ans dès la fin du développement de Super Mario World il a commencé à travailler sur un nouveau Mario avec la puce FX. Un Super Mario FX.
Parce que j'étais en train de me demander s'il n'y avait déjà pas un truc en plus dans la
cartouche
de Yoshi, en fait.
La puce FX, c'était
Star Fox.
Voilà,
Star
c'est
Fox,
la puce qui arrivait dans la cartouche de Star Fox.
Pour rajouter la 3D.
On ne va pas faire de digression, mais Star Fox, c'était incroyable, cette puce, ce qu'elle pouvait faire. Quoi. C'était un jeu en 3D, quoi.
Ouais, exact.
Et voilà. Et donc, justement, bah, pendant 5 ans, c'est quand même mis du temps, hein, et bah, les équipes de Shigeru Miyamoto ont tenté, vainement, hein, visiblement, de créer un Mario sur Super Nintendo, mais qui serait en 3D. Et quelque part, et bah, ces années-là de travail vain, et bah, ça a porté ses fruits en 96 avec Super Mario 64, cette fois-ci sur Nintendo 64.
Et là,
puisque
c'est
alors
l'extase.
Là, juste, et bah, voilà, c'est la création du jeu en
du
3D.
Du jeu de plateforme
hein.
3D. Voilà.
C'est les bases de ce que tout le monde rêve encore. Certains jeux 3D pourraient s'en inspirer.
Avec des trucs super cons, parce que moi, je passais mon temps à faire un truc à l'air. Tu vas tu rigolais. J'adorais Wave Race avec les flottes, la flotte et tout.
Ouais.
Je passais mon temps à rentrer dans les tableaux et à ressortir. J'adorais les faits. Ouais. C'était super con, mais je trouvais ça méga classe.
On rappelle un petit peu, hein, donc Super Mario 64. C'est un grand château central.
Exact.
Dont à chaque fois, lorsqu'on trouve des étoiles dans les niveaux, on va ouvrir des portes. Château énormissime hein, qu'on
a
exploré.
Il y a plein de portes.
Plein de portes, des passages secrets, etc. Et effectivement, pour passer d'un niveau à l'autre, il fallait sauter dans des tableaux avec un espèce d'effet très stylé.
Je trouvais ça très bien vu. Puis en plus, au niveau de l'univers, c'était vachement... Enfin, moi qui aime bien les jeux où t'as une espèce de continuité, etc. Revenir à un autre central, c'était pas tout à fait... Enfin, moi, d'habitude, j'aime pas tellement. Mais là, c'était tellement bien vu, tellement bien fait, tellement bien intégré que ça posait vraiment aucun problème.
Et puis c'était gigantesque.
C'était une telle claque technique à l'époque. Et puis c'était tellement, tellement nouveau à jouer, quoi. Mm-hmm. C'est-à-dire que... c'est non seulement l'adaptation parfaite d'une formule 2D dans un univers 3D pour un jeu de plateforme, mais pour un jeu en général. Quoi. C'est-à-dire que cette manette N64 qu'on avait à cette époque-là entre les mains, parce que c'était encore un Mario qui arrivait tout de suite avec la console.
Voilà. C'est d'ailleurs le dernier.
C'est le dernier
Mario
voilà.
qui a accompagné le lancement d'une console Nintendo.
Et prendre le contrôle de Mario comme ça, c'était hyper déroutant au départ, et puis on s'y faisait, et puis on trouvait ça juste incroyable, quoi. Enfin, c'était une immersion toute nouvelle, et c'était...
Complètement d'accord, mais alors là par contre il faut vraiment pas oublier une chose, c'est que cette manette Nintendo 64 avait été clairement développée autour de Mario 64.
On l'a payé
par la suite.
Rappelez-vous les 4 petites touches jaunes sur le côté qui permettaient de régler les caméras, etc. Caméra d'ailleurs qui était étonnamment bien gérée pour un premier jeu 3D.
T'avais quasiment pas à y toucher, alors qu'on a connu tous les bugs des caméras.
On les connaît encore, ça existe toujours. Hein.
Mais il y a eu une époque, au début, à cette époque-là, c'était une catastrophe.
Non, mais c'était régulier. Mais là, ils avaient fait un truc, très honnêtement, je sais pas qui a bossé là-dessus en interne, à part Miyamoto et tout, je sais pas où est l'idée de génie, mais c'est hallucinamment bien fait par rapport à même des jeux qui sont sortis cette année. Je ne citerai personne.
Et puis c'est d'une richesse. Enfin, il y a pléthore de niveaux. À chaque fois, il y a des challenges renouvelés. Puis pareil, la casquette avec les ailes pour voler dans ce monde 3D où on survolait l'espace.
Bien classe. Et le Super Mario de métal qui coulait dans la flotte, etc. Enfin,
merci Terminator.
C'était un peu l'effet Terminator.
C'est grave.
La
maison hantée complètement revisitée, etc., avec une ambiance super glauque.
Et puis les niveaux étaient gigantesques. Il y avait un côté exploration complètement nouveau dans la série.
Il y avait un côté aventure. Enfin, je sais que moi, le premier niveau que tu fais, quand tu commences avec un truc tout bête, avec le chien, tu sais, qui a attaché à la chaîne, la grosse boule, le chien, je l'appelle le chien, tu vois, la vieille association, la boule qui veut te bouffer, mais rien que ça. Comme ça en 3D, comme tu peux l'éviter, comme tu es sur un petit passage,
ça changeait
génial,
tout.
Quoi.
Ça changeait tout.
Tu te retournais, tu regardais, tu étais dans le monde. Quoi. J'ai trouvé ça méga classe.
Je pense que c'est même on va dire, le meilleur exemple de réussite de passage de 2D à 3D, ce jeu.
Puis il y avait tellement de vie à côté. Il y avait des cascades, il y avait des papillons qui volaient. Et par exemple, rien que le début, avant même de rentrer dans le château, puisqu'on sort par un petit tuyau on pouvait rester 10 minutes à regarder, à se balader, à entendre le gazouillis des oiseaux. Enfin, on était dans un monde. Exactement. Puis il y avait plein de trucs qui étaient cachés.
Ah non, moi j'ai fait le
tour. On pouvait avoir Yoshi d'ailleurs à la fin du jeu, qu'on ne pouvait pas utiliser. Mais,
que j'ai jamais eu. Mais
bon. Avec toutes les étoiles, etc. du jeu, il y avait Yoshi qui était présent au sommet du château.
Mais t'avais des étoiles qui étaient super saquées à trouver. Quoi. Genre celle où tu devais te pulser dans un coin d'une falaise avec un canon et tout ça. Enfin, celle-là, je m'en rappelle parce que j'avais galéré. Mais il y en avait plein d'autres comme
ça. Jamais fini,
il était d'une richesse.
J'ai jamais fini avec toutes les
étoiles.
Ce jeu.
Ah, ça reste l'un des plus grands jeux de tous les temps, assurément. Et puis une véritable.
Mine de rien, il y en a beaucoup sur N64 des plus grands jeux dans leur genre
Non, mais c'est ça. C'est que la Nintendo 64 a déçu beaucoup de personnes parce qu'effectivement, il y avait très peu de titres.
Elle a marqué. Et on en parlera dans la deuxième partie du podcast sur les jeux qui ont marqué leur génération.
Parce qu'il y en a un autre comme un Zelda, par exemple, qui a fait beaucoup de choses. Ou un GoldenEye, par exemple.
Tout à fait.
Exact.
Voilà. Toujours dans la même logique.
Est-ce que Raon veut dire un truc sur Mario 64
parce qu'il vient d'arriver et ça nous fait plaisir.
Et il a téléchargé il y a peu pour y rejouer et je crois qu'il a kiffé même encore récemment. Quoi.
Ouais. Et je voulais juste revenir sur le truc des caméras en fait parce que tu disais qu'à l'époque on n'avait pas besoin de les bouger. Mais en fait,
quasiment pas quoi.
En fait,
non, tu les bougeais sans arrêt, mais c'était naturel.
Oui, mais c'était prévu dans le gameplay. C'était autre chose.
C'était super bien fait. Et quand je l'ai relancé, je me suis rendu compte qu'effectivement, ce qui était agréable dans ce système de caméras, c'est qu'on pouvait les disposer comme on voulait que c'était.
Mais c'est que t'avais le choix, tu pouvais ne pas les toucher et elles étaient super bien positionnées.
Il y a quand même certains moments où il fallait la bouger. Il y avait une pression sur en fait c'était elle bougeait pas comme maintenant les caméras qui bougent en fonction de stick analogique doucement et vraiment pour les placer précisément. Quand t'appuyais une fois sur un bouton jaune, elle se décalait en gros d'un quart de cercle dans une direction et ça suffisait amplement. C'est à dire que t'arrivais à un moment donné sur une ligne ou sur les niveaux qui menaient à Bowser par exemple, qui étaient des niveaux typiques plateforme hyper balèze avec des blocs qui bougeaient dans tous les sens et tout ça, pour bien évaluer la distance de tes sauts, parfois tu t'arrêtes, t'appuies une fois sur le bouton pour placer la caméra comme tu veux
et ça devient une phase de plateforme
c'était pas gênant quoi. C'était pas gênant du tout et c'était
tu as joué d'ailleurs avec une manette GameCube sur et ça allait
nickel.
Ah oui, c'était avec le stick
parce que c'est exactement la même chose en fait, tu donnes un coup de stick et ça le redécale d'un quart.
Et donc, effectivement, si vous n'avez pas pu y jouer, jouez-y. Parce
il faut absolument télécharger. Moi,
je l'ai fait hier soir et j'ai repris un pied monstrueux. Et ça a vieilli, très clairement. Les textures sont très lisses, etc.
Non, parce que c'est Mario.
C'est des jeux que tu ne peux pas jouer parce qu'ils ont trop vieilli.
Non, mais c'est ça.
Parce que les textures ne sont pas trop chargées.
Mais c'est le design était vraiment bien fait. Il n'a pas trop... En même temps, Mario, c'est intemporel.
Non, mais voilà. C'est très bien pensé. C'est prenant du début jusqu'à la fin. Puis il y a une vraie ambiance. C'est vraiment la classe. 96, ça c'était 96 avec Mario 64. Eh bien, il aura fallu attendre 6 ans, 6 longues années pour voir Nintendo récidiver toujours sur GameCube avec Super Mario Sunshine, cette fois-ci en 2002. Et là, on va pas se le mentir, c'était légèrement plus contrasté comme, voilà, comme accueil.
C'est peut-être le plus mauvais de la série, soyons francs. Et quand je disais
mais c'est quand même un très très bon
mais
jeu.
Non, mais voilà, quand je disais il n'y a pas une mauvaise Mario, on a tendance à dire celui-là n'est pas bon. Ouais. Il n'est pas bon pour un Mario. Il y a des gens avec une autre mascotte, un autre personnage, etc. Ils auraient rêvé de faire ce jeu, tu vois. Ça reste, cela dit, il était, dès le départ, tu sentais que le gameplay n'était pas comme d'habitude.
Alors, on resitue un petit peu. Super Mario Sunshine, donc ça se passe sur une île. Ce genre, il fait beau, il fait chaud. Mario a un jetpack cette fois-ci qui lui permet de
voler. Un waterpack.
Voilà, oui, c'est ça, un waterpack. qui lui permet aussi de tirer pour enlever du pétrole ou des trucs comme ça. C'est très écologiste. Ouais. Y a des pieuvres avec de l'encre, il faut les nettoyer.
Et là, tu vas me dire le nom des personnages qui habitent sur l'île.
Bah c'est l'île Delfino.
Ouais, si mais les personnages qui étaient tout bizarres là. Comment ils s'appelaient?
Je sais plus là. Tu t'en rappelles toi? Bah très bien, merci. Ça fait plaisir de poser ce genre de questions.
Mais non, parce que j'y ai rejoué il y a pas longtemps et j'étais super étonné. J'avais complètement oublié un peu le look du jeu, etc.
Ils ont des tronches assez un peu improbables.
Voilà. Ouais, et puis voilà. le coude, c'était dur quoi.
C'était dur, et puis c'est surtout que il y avait une variété un peu moins importante que dans les précédents titres. Très honnêtement, c'était beaucoup moins varié. Il y avait 7 grands niveaux, voilà, mais sorti de là.
C'était surtout toujours la même chose, que les mêmes objectifs qui se répétaient à l'infini. Ouais. Les univers étaient tous identiques, parce que finalement, ça se passait toujours dans l'île
Delfino,
avec des décors plus ou moins différents, quoi, mais toujours dans le côté tropical. Quoi. Voilà, c'était. Moi, franchement, j'ai même pas trouvé que c'était un très très bon jeu. Hein. Bon, il y a Julo qui
m'en parle. À la tienne, Julo.
Voilà, Julo, il s'ouvre une bière et rigole. Normalement, c'est l'inverse.
Maintenant. Non, mais ce qui était.
C'est de faire remarquer.
Effectivement, autant franchement, à chaque épisode, ouais. Mario apportait toujours une vraie grosse nouveauté.
Ouais,
un vrai nouvel univers, une nouvelle manière de voir les choses, etc. Là, franchement, à part le water pack, il se passait pas grand chose. Et puis, au final, on refaisait éternellement un peu toujours les mêmes choses.
Donc, c'est pour ça, c'était même pas un très bon jeu. Hein. C'était juste un bon jeu de plateforme.
C'était l'accumulation d'étoiles. Raon.
Il y avait aussi pas mal de problèmes de caméra, justement. Là. Pour le coup, il y avait des endroits où il y avait des textures. Donc, on avait des caméras qui se bloquaient derrière des blocs.
Ah, le grillage. Les problèmes de grillage. Ah oui, non, c'est insupportable, ça.
Ça, c'était relou, quoi. Et c'était un peu la première fois dans un Mario qu'il y avait vraiment des moments
où tu pouvais pas évaluer tes sauts.
Tu pestais contre les caméras, quoi. Tu disais, putain, merde, elle est coincée derrière ce putain de grillage. Mais dès le début, j'ai obligé de redescendre.
Dès le début en plus, et c'était pas lié à la difficulté au gameplay. Enfin, pour la première fois dans un Mario, t'étais pas bloqué à cause d'un problème de gameplay, parce que le design était fait pour là, tu vas en chier, bonhomme. Non, là c'était juste que la caméra pouvait essayer de se mettre derrière un grillage, donc en l'occurrence. Et je m'en rappelle parce que c'est genre, mais dès le niveau 2, quoi. Et tu fais, mais les gars, qu'est-ce qui se passe?
Non, mais c'est ça, c'est qu'il y a eu cette sensation de. À l'époque, il y avait Jack and Dexter qui était aussi sorti, qui avait apporté pas mal de choses aussi, quelque part, dans son genre. On était 6 ans après Super Mario 64, et il y avait beaucoup de choses qui n'avaient pas évolué. Certaines avaient sensiblement régressé. Du coup, ça a laissé quand même une impression un peu contrastée. Quoi.
C'était vraiment, ils avaient tout mis dans le jetpack, dans le waterpack.
Moi, pour résumer, franchement, pour moi, c'est la première fois que j'étais content de finir un Mario, mais pour de mauvaises raisons.
Ça c'est fait.
Ah non, vraiment.
Ah
ouais, c'était vraiment pour de mauvaises raisons. Moi, franchement, à la fin de Mario Sunshine, j'en avais juste marre. Quoi, j'étais super content.
Bah tout simplement, moi je crois que c'est le seul que j'ai pas fini.
Bah voilà.
Parce que j'ai dû arriver à 90 étoiles, puis à la fin j'ai fait. Je m'en fous un peu là en fait.
Mais
tout ça pour voir Peach qui allait me faire. Oh Mario, tu es trop sympa. Ta gueule, connasse, ping.
Et moi je vais vous dire un truc honteux, et c'est pour ça que je ferme ma gueule depuis tout à l'heure, c'est que c'est le seul Mario auquel j'ai jamais joué.
Bah voilà.
Je peux te le prêter parce que je l'ai.
Il
n'a
pas envie. Quoi,
Je
te l'échangerai contre un Paper Mario.
Contre
Paper
Mario.
Paper Mario,
voilà.
Il a apporté une chose quand même. Il a apporté les niveaux old school qu'on retrouve aujourd'hui dans Super Mario Galaxy. Qu'on retrouvait un petit peu dans Mario 64, mais enfin très peu. C'est vraiment.
Ouais, là, c'est la première fois.
C'est la première fois où il y avait vraiment cette mise en abîme avec vraiment les graphismes 2D, etc. derrière.
Où c'était un véritable hommage rétro et tout.
Exactement.
Dans Mario 64. C'était pas vu de la même manière. C'était plus qu'une adaptation. C'était vraiment un retour en arrière.
Perso, les jeux autoréférentiels, enfin tout ce qui est autoréférentiel, moi, c'est toujours fait chier. Donc.
T'as pas joué encore à Super Mario Galaxy alors.
Et puis t'as pas joué à Paper Mario également.
Mais je fais ce que je veux déjà.
Alors justement, est-ce qu'on pourrait faire...
Il s'amuse en jouant à l'air en ce moment, tu peux pas tout faire.
Est-ce qu'on pourrait faire rapidement un petit tour d'horizon aussi, parce que là, on a fait la saga, on va dire, généraliste de Mario. Enfin, Mario, on l'a dit, hein, c'est des apparitions dans plus de 150 jeux. Il y a du Dr. Mario, il y a les Paper Mario, qui sont de très très bons jeux aussi.
Oui, les Mario RPG, aussi.
Mario RPG,
Il y en a eu un avec la maison hantée sur Nintendo.
Oui, il y a eu Luigi's Mansion.
Luigi's Mansion, mais merci.
Qui était alors j'ai rarement compris pourquoi les gens s'étaient enflammés un peu sur
ce
jeu.
Moi je dois être le seul mec sur Terre à avoir vraiment bien aimé ce jeu.
Moi j'ai trouvé pas mal, j'ai trouvé pas bon,
il était honnête quoi,
mais l'ambiance était assez sympa.
Voilà, c'était l'ambiance qui était bien et puis techniquement c'est la GameCube, donc tu avais avec la lampe torche et tout, c'était joli.
J'ai passé mon temps à faire gueuler Luigi pour qu'il appelle Mario.
Moi aussi pareil.
Que ça.
Tu sais, c'est un peu comme l'herbe dans Zelda dont on parlait la dernière fois.
Ouais, voilà.
C'est-à-dire que dans Luigi Mansion, tu avais tout le temps envie d'appeler Mario. Je crois que c'était le bouton A en plus, c'était vraiment le truc de base.
Et ça variait ça variait selon le niveau de vie. S'il était à deux doigts de crever, là, il avait la voix qui tremblait.
Et même au même niveau de vie, t'appuyais plusieurs fois de suite, il le disait pas de la même manière, si je me souviens bien.
Mario je passais mon temps à appeler.
Vous êtes vraiment tous tarés, donc là, je comprends.
Et à un moment, c'était...
Mario. Mais ça, c'est pas vraiment un jeu Mario.
C'est un jeu de l'univers.
Voilà, un jeu de l'univers Mario.
C'est ce qu'on appelle un spin-off.
C'est un spin-off, exactement.
Voilà, donc il y a les jeux, justement, par exemple le Mario RPG sur Super Nintendo. Faut pas oublier que c'est même pas Nintendo qui l'a fait, mais
c'est Square.
Et c'est un excellent.
Enfin, c'est une
jeu.
Coproduction, on
voilà,
va dire.
C'est
une
coprod, hein, c'est clair. Il y a les. On l'a dit rapidement, hein, mais le Paper Mario,
les Paper Mario
actuel est excellent.
Il y a les autres Paper Mario qui étaient justement avec des éléments RPG. C'est-à-dire que c'était des combats au tour par tour. Comme dans un Final Fantasy.
Comme dans un RPG.
Voilà. Enfin, comme dans un RPG à la.
À la tour par tour, t'as raison de le préciser.
Et ça a changé avec la version donc Wii, qui était plus action et plus retour en arrière encore au niveau du gameplay, c'est-à-dire un vrai jeu de plateforme quoi. Jeu de plateforme avec des nouveautés extraordinaires avec le passage 2D 3D.
Bah, c'est la nouveauté principale.
C'est la nouveauté.
C'est le. Bon, de toute façon, le test est toujours en ligne et puis le jeu est récent, donc tout le monde doit le connaître.
L'avoir en tête. Ouais.
Mais effectivement, la nouveauté de d'inverser la perspective, de passer d'une perspective 2D à 3D, c'est l'essentiel de la mécanique de tout le jeu. Et pour ce qui est des éléments RPG, ils y sont toujours, mais pas dans les systèmes de jeu proprement dit.
Pas dans les combats, en fait. Avant, c'était des combats vraiment tour par tour, alors que voilà. Tu restes dans l'action tout le temps.
Mais tu continues à récupérer des niveaux, à accumuler des objets, etc. Quoi.
Voilà, tu récupères tu peux faire des potions, des machins, etc. Enfin, c'est quand même hyper léger comme côté RPG, mais il y a une espèce de progression du personnage et de ce qu'il peut faire et tout.
Donc
c'était chouette.
J'étais étonné. Autre...
Ce jeu est vraiment extraordinaire. Parce que aussi, donc tu parlais de Mario Galaxy comme le premier jeu de la série auto-référentielle, etc. Pour de vrai. Ah ouais. Celui-là, je ne sais plus si c'est le troisième ou le quatrième monde.
Pixel art.
Voilà, en pixel art. Mais il est... fantastique et c'est bourré d'auto-références, donc
pas seulement d'auto-références à l'univers Mario, il y a aussi des références à d'autres icônes du jeu vidéo
et puis dans les dialogues autant que dans les décors, etc.
Il y a une référence à Sega, le fameux troisième niveau dont tout le monde se souvient, qui est extraordinaire. Le boss de fin, c'est un otaku caméléon. Qui accumule des BD et des dating simulators japonais.
Et donc, c'est pour ça, quoi. C'est un otaku, donc du coup, tous les décors sont en pixel art et t'as toutes ces références concentrées dans ce niveau qui sont.
J'ai envie d'y jouer là maintenant.
Ah, bah oui, moi aussi.
Ah non, voilà. Il faut vraiment y jouer.
La fin de ce niveau-là, je peux pas vous la spoiler parce qu'elle est juste énorme, mais
c'est gigantesque. J'ai une notion sur celui de Raon, je te préviens.
De toute façon, c'est très simple. Quand t'as une Wii, il y a quand même pas énormément de jeux auxquels il faut jouer absolument. Celui-là, il en fait partie,
en
tête de liste 3, ouais. avec Metroid, Zelda et puis Mario Galaxy, dont on va parler dans un moment. C'est un grand jeu, vraiment.
D'accord.
Rétro, mais grand jeu, quoi.
Ouais. Ok. Alors, justement, avant de parler de Mario Galaxy, faisons très rapidement encore un tour d'horizon des autres jeux Mario. Il faut voir qu'au-delà même de la saga principale, Nintendo a souvent utilisé sa mascotte Mario pour lancer d'autres genres. Et d'autres genres qui, derrière, ont fait plein de petits. Par exemple, je pense à Mario Kart. Mario Kart, c'est quand même il y a énormément de copies d'autres jeux derrière. Enfin, ça reste un très, très grand jeu.
Un de plus qu'on va citer dans le prochain podcast sur la deuxième partie des jeux qui ont changé la donne, quoi. C'est Mario, c'était Enfin, je veux dire, c'était.
Non, mais le pire,
c'est. Le fun absolu.
Mario Kart, en plus, en ça serait pas Mario. À la limite, je m'en fous, quoi. Enfin, si cela dit, il n'y aurait pas Yoshi.
Bah ouais.
Pas
vous
mais il n'y aurait, aurait pas les
cookies. Je pense que ça apportait, ah, ça apportait vraiment quelque chose. Quoi.
Ah, ouais, parce qu'en fait, le gameplay n'a tellement. Enfin, ça a tellement rien à voir. Ça aurait pu être ah oui, carrément. C'est l'idée de mettre Mario dans un plein de cartes, c'est quand même une idée marketing à 110%. Mm-hmm. Mais derrière, c'est tellement bien fait.
Puis ça reprend tout l'univers que tout le monde connaît. Alors bon,
du coup, si j'ai pas mon Yoshi pour piloter, je suis la merde.
Il n'y a pas d'exemple aussi parfait du jeu qui a créé un genre, quoi. C'est vraiment.
Mais il n'y a pas de genre en plus. Il n'a rien à voir avec Mario. Tu
vois, ça n'existait juste.
C'est un univers.
Ouais, ouais.
C'est vrai que c'est. Et puis, c'est impressionnant.
Bon, alors, un autre jeu, il y a les Mario Party par exemple.
Ah, Mario Party extraordinaire. Alors ça,
voilà, encore. Mais c'est ça qui est flippant.
Pas
c'est
tous.
Pas tous. Le dernier, en
l'occurrence, en fait,
tous les derniers, sont décevants. Enfin, depuis 2-3 ans.
C'est pas que les derniers sont décevants. C'est que le problème, c'est qu'ils n'ont pas réussi à faire évoluer 2-3 trucs qui sont super énervants dans la vie. Qui sont le rythme du jeu.
Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est super lent.
Alors, le rythme du jeu, putain, c'est un enfer, quoi. Mais cela dit, dans le fond, ces jeux, ils restent extraordinaires quand t'arrives à trouver 2-3 potes qui peuvent rentrer dans le trip.
Non, regarde.
Avec Angèle, on a fait quand même des parties énormes sur notre. Enfin, franchement, le meilleur, à mon avis, c'est. Je crois que c'est le 5.
C'est le 5.
Le 4 ou le 5, quoi. On va dire, à cette époque-là, il y avait. C'est un jeu. C'est marrant parce que c'est dans l'univers de Mario, donc c'est super. Les fleurs, les champignons, etc. Mais tu peux faire des coups de pute à longueur de temps. Le jeu est construit pour.
Mais c'est odieux. Odieux comme principe. C'est vraiment dégueulasse.
C'est injuste. C'est-à-dire que même.
C'est pour ça que je l'adore.
Au bout d'un moment, t'as les options aussi de redistribution des étoiles, etc. Enfin, tu te fais chier à faire.
Ah ouais, au bout d'un moment, c'est communiste et tout. Tu vois, c'est hop, on se partage tout alors que toi, tu te fais chier à tout ramasser.
Communiste ou ultra anti-communiste. C'est-à-dire que tu te fais tout le temps. Tu passes d'une alliance à une autre, etc.
Ah ouais, non, c'est dégueulasse. Et c'est ça qui le rend intéressant. Mais moi, je continue de dire que les derniers sont ratés. Et particulièrement. Clairement, celui-là, oui. Voilà. Ou même
celui sur Wii, ouais, pas
ou même où on s'était bien fait chier à le tester d'ailleurs chez toi.
Même les mini-jeux, finalement, sont pas si drôles que
on
ça.
On dormait pas mal. Non.
Alors que pourtant, avec la Wiimote, il y avait de quoi
faire. Je pense que c'est un jeu qui, historiquement, il n'est pas développé par Nintendo, en fait. Hein. C'est Hudson qui le fait. Mm-hmm. Et effectivement, ça évolue pas assez. Quoi.
Ça évolue pas assez. Ouais. Mais bon, on continue encore. Il y a eu aussi du Mario Golf, il y a du Mario qui fait du tennis.
Du Mario Striker.
Il y a du Mario qui fait du foot, effectivement, exact. Mario Striker.
Moi, j'ai pas trop aimé celui-là.
Il y a du Mario qui se bastonne.
Très dur.
Mario qui se bastonne. Enfin, en gros, c'est effroyable de voir à quel point.
Il y a Mario et Luigi Lost in Time. Tout, hein. Mario et Luigi Lost in Time sur DS.
Très très bon jeu.
Qui est vraiment, mais en plus, qui est différent parce que t'as un côté RPG, tour par tour.
Réflexion et tout ça.
Ouais, avec du combat, mais avec des réflexes. Enfin.
Mario qui fait du basket sur DS.
Toujours.
Avec Square, encore
avec
une fois.
Avec Square, effectivement.
Et après, les super spin-off avec les autres personnages à la Wario.
Wario qui est peut-être l'un. Et tu me contrediras pas, Angèle, parce que c'est.
Écoute.
À la limite, je te cite presque. C'est l'un des meilleurs personnages du jeu vidéo qui a jamais été créé.
Je confirme.
Moi, il m'insupporte au plus haut point.
Le Picsou de Nintendo.
Moi, je préfère Waluigi.
Moi, je l'adore. Il est super énervant, il est super cupide. C'est, voilà. C'est...
Et les WarioWare
qui ont
découlé.
Enfin,
tout ça
pour dire qu'à peu près tout ce que Mario a touché, il en a fait de l'or et que très honnêtement, il y a quand même un taux de perte ou d'échec sur les jeux estampillés Mario proche du néant quand même.
Il y a
peut-être 10% des jeux avec un Mario qui sont pas terribles sur plus de 150 jeux.
Il y en a aucun acheté.
C'est la franchise la plus rentable de tous les temps. Mais en même temps, ce qui est intéressant de voir, c'est
une bonne franchise,
c'est que,
bien exploitée.
Il fait tout, mais
il le fait tout plutôt bien.
C'est pas Lara Croft, pardon.
Ils ont pas, ils ont pas gâché, quoi. Ils ont pas abusé du truc.
T'as dit quoi? Ils ont pas abusé du truc?
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont, ils n'ont pas exploité jusqu'à la moelle pour.
Mais tu rigoles?
Finalement,
tu veux
plus rien.
Non, parce que ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a toujours une recherche de l'innovation.
Oui,
dans chaque spin-off.
C'est pas Tomb Raider où tu savais qu'il y en avait un qui allait débarquer tous les ans et finalement c'est toujours la même chose et t'en as eu marre tout au bout. Ils ont quand même renouvelé le truc tout en sortant des millions de jeux quand même.
Ils ne tombent jamais finalement dans la facilité.
Non, c'est là.
N'importe quel éditeur, n'importe quel développeur, il tombe dans la facilité avec une licence comme ça, tu vois. eux, ils en font Sonic, toujours quelque
par exemple,
chose.
Tu vois, justement, Sonic, Sega est vraiment tombé dans la facilité, quoi.
Ah, carrément.
Bah, voilà. Justement, on verra ce que va donner Sonic et Mario, et Mario et Sonic.
Moi, je le vis.
Ouais, enfin, ça, c'est anecdotique, franchement, moi, je te le dis d'avance.
Non, mais.
Ouais, mais y a des...
Non, mais ça va être super rigolo et tout
bah,
ça.
Bah voilà,
qui
bah,
a joué ici. Moi, j'y ai joué.
Allez, vas-y, alors, Angèle.
Voilà, alors, s'il est Sonic et Mario, Mario et Sonic, je sais plus exactement. Enfin, il fait exactement ce qu'on attend de lui, à savoir, c'est marrant, c'est fun, ça paye pas de mine, voilà, c'est un track and field avec des persos sympas.
Et quand on fera un autre podcast réalisé sur Mario dans 10 ans sur Gameblog, on n'en parlera pas avec autant d'amour.
Mais j'ai jamais dit que c'était un jeu génial, mais je dis juste qu'il voilà, il remplit parfaitement sa tâche. Mm-hmm. Voilà, il a aucune prétention, ce jeu.
Alors justement, avant de conclure ce podcast, vendredi, nous serons le 16 novembre 2007, et ce jour-là sortira en France Super Mario Galaxy. Le nouvel épisode de la saga principale, on va dire. Juste attendez-vous à une bombe cosmique.
Cosmique,
c'est
assez beau.
C'est
assez
le
beau.
Très, très, très grand retour de Mario après Sunshine un petit peu décevant. On est dans un registre radicalement différent de tout ce qu'on avait vu jusqu'à présent. Mais alors là, c'est une... je sais pas, c'est l'inventivité, la créativité à l'état brut.
Un peu...
Non, mais
c'est vrai. Non, mais franchement, moi, je le contredirais pas. Et ça me fait penser aux Zelda qui est sorti récemment sur DS. C'est un peu ça, c'est, ils ont réussi à renouveler, en restant dans le même concept, etc., à renouveler avec tellement d'inventivité.
Mais un monde,
formule.
Une planète, une idée.
Voilà.
C'est aussi simple que ça.
C'est aussi simple que ça. Ça recommence, et ça recommence, et ça recommence tout le temps, et tu t'en prends plein la gueule. Et alors, on n'arrêtait pas de comparer, en fait, la venue de ce Mario Galaxy avec l'image, je veux dire, indétrônable de Mario 64. On en a parlé avec Amour il y a deux minutes. Ou peut-être plus d'ailleurs.
Parce que 20 minutes
en fait.
mais voilà, la grande
mais
surprise,
vite
la grande
sur
surprise c'est ça. Voilà, la grande surprise, c'est ça. C'est que contrairement à Twilight Princess, donc de la série Zelda, qui n'a pas surpris, mais qui reste dans un certain qualité,
très,
etc.
Très bon jeu, quand même.
Celui-là, il est tellement différent. Et pourtant, tellement trippant, autant que Mario 64.
Alors justement,
j'ai l'impression que tu vas imploser quand on parle tellement t'es content.
Ah non, mais justement,
je suis vraiment
je vais te dire ce que
j'en
pense.
T'as pas vu son slip, hein.
ou en tout cas c'est son jean, hein, très clairement. je vais te dire ce que j'en pense, moi. Moi, je trouve que ça manque un peu le côté exploration qu'avait Mario 64.
Je suis d'accord.
C'est-à-dire qu'on est moins immergé dans un grand monde dans lequel on va se balader, regarder, etc.
Où tu vas passer en vue subjective et kiffer sur la...
Voilà, et regarder des univers ou quoi que ce soit. C'est plus, on picore des niveaux. Les niveaux sont globalement assez faciles et finissent en à peu près 10-15 minutes maximum.
Oh, tu vas bien loin. Moi, je dirais c'est 5 minutes un niveau.
Quand même.
Environ.
Ça dépend lesquels.
Entre 5 et 10, allez hop.
Bon, en gros, il est en train de te dire que t'es nul.
Bon, je suis plus loin que lui, donc ça va. Mais par contre, ces moments-là, c'est des moments rares de trouvailles visuelles, d'inventivité. On joue avec la gravité, on joue avec les monstres, on se retrouve la tête en bas, puis on saute, boum, la tête en haut.
Voilà.
Enfin,
et le truc
quoi.
Impressionnant,
c'est
que tu passes
non,
au niveau.
Mais justement, c'est ce qu'on peut craindre au début, et bah alors pas du tout, en fait. Hein.
Bon,
les contrôles sont très précis, la caméra se
passe bien. De temps en temps,
ça
merde un peu quand tu passes sur le dessous d'une planète, etc. T'as du mal à contrôler. Bon, c'est vraiment anecdotique. Mais pour revenir à ce que tu disais, ce qui est vraiment impressionnant, c'est que Tu passes d'une trouvaille fantastique qui serait dans n'importe quel autre jeu exploité jusqu'à la moelle sur les 10 niveaux qui suivent.
Mais c'est ça, voilà.
Là, tu passes d'une trouvaille et boum, tu changes de niveau. Et les niveaux, comme on disait, donc on va dire entre 5 et 15 minutes. Et tu passes au niveau suivant et là, c'est une nouvelle trouvaille et une nouvelle et une nouvelle et une nouvelle tout le temps.
Alors,
c'est incroyable.
Un exemple simple, on sait que dans ce Mario Galaxy, c'est le retour des costumes. Alors, vous avez l'abeille, vous pouvez tirer des petites boules comme d'habitude.
Le fantôme, le ressort.
Il y a d'autres costumes, on ne vous le dira pas, pour ne pas vous spoiler. Mais franchement, ces costumes-là, ils sont dans un niveau par Galaxy.
Mais oui, ils ne sont même pas exploités.
Et puis, c'est tout.
C'est ça qui est hallucinant. C'est hallucinant.
Ça veut dire qu'on y joue trois fois et demi, puis c'est
fini. Ça ne peut pas être un défaut, ça, justement.
Mais non, carrément pas.
Non. Parce qu'ils sont
ultra bien exploités.
Comment je me fais agresser par les deux en même temps? Oh là là, j'ai juste posé une question, les gars.
Faudrait filmer là, mais ils sont au taquet tous les deux, c'est fantastique.
Mais non, mais parce que ça faisait vraiment longtemps. Et puis alors, en plus, on en parlait juste avant ce podcast, mais l'ambiance, les musiques, tout est en
musique
symphonique.
Les musiques sont toutes symphoniques.
Mais
juste
magnifique,
incroyable.
C'est ultra grandiloquent. On arrive sur les planètes à chaque fois, genre c'est un vol. Alors on part à Mach 3. On atterrit, bang, c'est la super classe, on regarde le monde, on voit des trucs partout. Enfin, c'est génial. Et alors, un autre truc,
moi, auquel j'ai
pu essayer. Non, non, mais un truc très sympa, c'est. Alors, il y a un mode coopératif à deux joueurs. Alors, effectivement, Julo, tu me le soulignais, c'est pas un vrai mode deux joueurs.
Mais
et là-dessus, on est d'accord.
Mais c'est un vrai bonus qui a lieu d'être.
Je trouve que c'est parfait pour la Wii, c'est-à-dire console qui s'adresse aux gamers et aux pas du tout gamers ou au moins gamers, etc. En gros, j'ai joué avec une copine. Elle prend la deuxième, elle prend la Wiimote. Bon, ben avec la Wiimote, elle peut récupérer des fragments d'étoiles, etc. Pendant que toi, tu es en train de jouer, de faire les trucs, on va dire, un petit peu compliqué, sauter, etc. Et ben l'autre,
pendant que t'es en train de sauter,
je me comprends.
T'es en train de perdre Gilo là.
Et ben l'autre, il participe complètement au jeu, donc il a un vrai plaisir de jeu, sans être complètement exclu, juste à regarder son pote, sa copine ou quoi que ce soit en train de jouer. Et du coup, bah, il fait partie intégrante d'aventure.
Mais bon, enfin, ça reste voilà, quand même anecdotique. Cela dit, c'est un bonus vachement sympa.
Vachement
mais
sympa.
Mais c'est un bonus. C'est oui, pas c'est-à-dire
que ça donne envie après, la personne, elle a envie de jouer après essayer. Parce qu'elle s'est sentie inclus dans l'aventure.
Ouais, mais justement, c'est ça, c'est que le deuxième joueur doit absolument être un ultra casual ou un mec qui a jamais touché un jeu parce que tu peux pas.
Ça va être parfait
si tu te retrouves avec un pote gamer.
Ça va être parfait avec ta femme. C'est-à-dire que c'est la première fois que tu vas pouvoir jouer avec Mario. À côté, elle va regarder.
Et si ça la saoule, est-ce qu'elle peut arrêter
complètement?
Bien sûr.
Je sais pas si on peut.
Non, mais en plus, je trouve ça super fourbe parce que ça veut dire que c'est de l'éducation. C'est-à-dire que Nintendo, avec ça, ils vont faire venir des gens qui n'avaient rien à foutre de Mario ou quoi que ce soit parce qu'ils ne regardaient pas. Là, ils vont regarder, ils vont trouver ça cool, et puis en loose day, ils vont jouer après.
Tout marche comme prévu.
Donc ça, il y a une nouvelle génération de joueurs de Mario. Non, non, mais c'est ultra bien pensé, mais c'est incroyable.
Bon, je crois que vendredi, il faut que
j'aille à la Fnac. Il y a 40 planètes, c'est très long. C'est la durée de vie est assez longue.
C'est déjà le jeu, merde.
Je m'emballe un peu, hein. C'est plus une bonne dizaine d'heures. Hein,
écoute, je sais pas, je l'ai pas encore fini.
Mais par contre, si on veut avoir toutes les étoiles, une fois de plus, c'est assez long, puisqu'il y a des comètes aussi qui passent et qui changent les défis de certains niveaux.
Ouais, ouais, c'est-à-dire que tu as une rejouabilité. Ouais, c'est très moche à dire, mais c'est le terme qu'on utilise. Et tu as une rejouabilité sur tous les niveaux avec des comètes qui apparaissent et qui, par exemple, te font rejoindre un niveau contre un Mario, ton double.
Ou sinon tu commences
c'est
le niveau
un time trial,
avec
en fait.
Un seul point de vie, ou sinon tu commences le niveau...
Bah, spoilez pas tout.
Ouais. Oh, bah, non, mais c'est pas du spoil, parce qu'après c'est une mécanique de jeu.
C'est des mécaniques de jeu, ouais. Donc vraiment, un Mario Galaxy, étonnante fraîcheur.
Pas, qui pas, fait le test
pas
qui
techniquement,
fait le test
techniquement ouais, pas, pas bluffant.
C'est Julo
hein.
Ça va être Gollum ou moi, je sais pas.
Et bon, j'ai l'impression qu'il va y avoir plein d'étoiles.
Il faut préciser à nos chers lecteurs que nous sommes dimanche soir. Voilà. Et d'ici là, le test, en fait, ça sera déjà certainement en ligne.
Voilà. Hmm. Mais en tout cas, vraiment un très 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 grand jeu. Enfin, je repense à des séquences où on passe de l'autre côté. Enfin, franchement, ruez-vous dessus le vendredi. Non,
dessus.
Tu te souviens encore de comment elle s'appelle, la nana avec qui t'as joué, ou t'as complètement oublié tellement c'était trop bien le jeu?
Non, oui, je me rappelle très bien comment elle s'appelait.
Ah, d'ailleurs, elle s'appelle Peach.
Non, bah d'ailleurs, il y a l'apparition d'un nouveau personnage aussi avec
la maîtresse,
la princesse.
Oui, comment s'appelle-t-elle?
Comment s'appelle-t-elle?
Bonsoir. Vite, sors la notice.
Alors les personnages s'appellent les Luma. Alors j'ai vu comme une sorte de dommage que Miyamoto me rendait.
Luma.
J'ai trouvé ça très bien. Elle lui ressemble d'ailleurs pas mal à Peach. Hein. Moi, je sens qu'il y aura une sorte de cliffhanger à la fin ou un truc comme ça. Enfin, c'est vraiment mignon. Puis ça nous change de tous ces jeux de guerre, etc. C'est super agréable.
Je crois que le nom que tu cherches, c'est Harmony.
Harmony, voilà, la princesse Harmony, que dans le jeu, toutes les petites.
Ça mangeait pas trop dur avec la doc.
Appelle maman.
Maman.
Et c'est trop mignon.
Maman.
Et tu sais, je sais pas si t'as vu, mais parfois, il y a une librairie dans le jeu où elle raconte des histoires.
Oui, tout à fait, j'ai été lire avec elle. Enfin, voilà. J'ai été l'écouter me lire.
Enfin, c'est un jeu zen, plaisant, agréable. On peut y jouer genre une demi-heure, on arrête.
C'est ça un peu la différence avec Mario 64, c'est que c'est quand même un peu l'héritage casual de la Wii, etc. Mmh. C'est que tu peux y jouer en picorant à droite à gauche.
Ça va me 5
minutes, 10 minutes, ça etc. Va. Mais en même temps, si t'as du temps devant toi,
tu te lances dedans, tu fais
les étoiles les unes après les autres et tout. C'est vraiment la fusion des deux mondes, du casual
vraiment.
Et du
et puis alors moi il y avait un truc qui me faisait un petit peu peur, c'est je me disais avec la maniabilité Wiimote, Nunchuk, etc., est-ce que ça va pas être un peu light, et puis au final bon est-ce qu'il y aura
Mario,
pas des petits problèmes,
pas tant de mouvements, etc. Enfin,
non, il fait un peu moins de mouvements que d'habitude, d'ailleurs,
mais c'est dans l'inventivité des situations que tout change, quoi.
Et puis surtout, plus ça va, plus les niveaux deviennent complexes, et plus il y a vraiment des phases de plateforme assez pointues. Et puis on se rend compte que en fait, bah, ça passe très très bien, quoi. J'ai jamais eu de problème de jouabilité.
Non,
et on sort des doubles sauts, triples sauts, sauts en arrière, on s'accroche au muret. Ouais, enfin, ouais.
Ça joue comment d'ailleurs,
ça joue comment? Tu diriges les mouvements de Mario avec le Nunchuk, le stick du Nunchuk. Tu ressens la caméra avec le bouton du dessus sur le nunchuk.
D'accord.
Et le bouton du dessous, tu écrases, enfin tu te mets en position accroupie ou alors quand tu sautes.
Oh, d'ailleurs,
tu t'écrases.
Quand il marche en accroupie.
Et après, la Wiimote, réellement, la fonction de visée de la Wiimote te sert que à récupérer les fragments d'étoiles qui traînent à l'écran. Donc tu balades le curseur. Et sinon, tu appuies sur A pour sauter. Et puis,
Et puis les fragments, tu peux les renvoyer sur des ennemis pour les immobiliser. Après, tu leur shootes dedans. Tu peux récupérer des trucs.
Mais après,
avec
le
la
truc...
Wiimote, tu peux utiliser, tu peux te mettre en orbite avec certains trucs. Ça te mène en apesanteur. Et alors, tu dois linker des étoiles les unes. Alors, bring, bring. Tu appuies en visant avec la Wiimote sur certains objectifs. Ou sinon, tu peux te servir de la Wiimote une fois de plus en agrippant des objets, en les étirant comme de l'élastique.
Excellent.
Pour te balancer dans le ciel. Enfin,
et surtout, tu as des niveaux, en dehors des niveaux classiques, tu as des niveaux bonus dans lesquels
ultra rétro.
La Wiimote est vraiment utilisée. Par exemple, tu surfes sur une raie, donc tu as une course comme ça, et tu dois bouger la Wiimote de gauche à droite en l'inclinant, etc. Tu as un truc un peu à la Monkey Ball où tu es sur une boule et que tu dois déplacer. Etc. Et là, tu mets la Wiimote à la verticale. Et tu penches
précis.
De devant, derrière,
ultra
à gauche
précis.
À droite, d'une précision absolue.
Stop, j'ai une question.
Ouais.
Combien Nintendo vous paye pour raconter tout ça?
Non, écoute.
Non, parce que là, s'il y a un mec qui a une Wii qui achète pas Mario vendredi, on comprend pas. Hein.
Bah, nous non plus, on comprendrait pas parce que franchement,
temps,
c'est l'assurance d'un vrai bon moment. Quoi.
Voilà,
autant quand on aime pas, on le dit, autant que franchement,
parce que je le dis aux auditeurs tout à l'heure, je crois que t'as été très clair avec moi, Julo. Mais il faut que tu l'aides vraiment, il est fantastique.
Tu sais quoi, après le podcast, on va y jouer. Donc d'ailleurs, on sait à peu près tout ce qu'on pouvait dire sur Mario. Hein.
Bon, bah voilà, ça c'est fait.
Non, très sincèrement, il y aurait encore énormément de choses à dire encore sur Mario et son génial créateur qui est Shigeru Miyamoto. Mais enfin bon, il y a bien un moment, il faut que ça s'arrête. En tout cas, on espère 59... Oh, si je te donnais 30 secondes de plus, ça nous permettrait de faire un podcast d'une heure, ça vous ferait plaisir. Hein.
Un podcast. Si bafouille, on va faire une heure facile. Hein.
Exactement. En tout cas, Mario, on rappelle, hein, plus de 190 millions de jeux écoulés, plus de 150 jeux vendus, créés depuis l'histoire qui a commencé en 81. Et de Jumpman au tout début à ce Super Mario Galaxy, il s'en est passé tellement de choses, tellement d'heures passées avec ce personnage qui, ma foi, ne ressemble strictement à rien et qui est pourtant l'un des plus grands héros de jeux vidéo de tous les temps. Merci Mario, merci pour tous ces bons moments. Et puis nous, j'espère qu'on se retrouve la semaine prochaine, ça c'est sûr. Et que vous, en tout cas, vous aurez passé plein de temps sur Super Mario Galaxy. N'hésitez pas à en parler dans les forums de Gameblog.fr. Vous dire, nous, par exemple, parler de vos meilleurs moments avec Mario. Je suis sûr que chacun a des anecdotes particulières dessus. Ou en tout cas, nous balancer vos premiers feedbacks sur Super Mario Galaxy si vous avez la chance d'y jouer. On vous dit à la semaine prochaine.
Oui, au revoir.
À la semaine prochaine avec la deuxième partie des jeux qui ont fait avancer l'histoire du jeu vidéo. Du coup, il est possible qu'on reparle encore un peu de Mario. Hein. Ah, allez, à la semaine prochaine. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Salut.